l'ambiance.
Oui, 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 l'ambiance.
Oui, c'est bon.
On fait pas de raclette en septembre. On fait pas de raclette au mois d'août.
Ben voilà, il fait froid. C'est l'époque de la raclette.
Fromage qui coule.
Fromage qui coule, exactement.
Pommes de terre,
jambon, enfin la totale.
Le principe, c'est d'avoir donc un fromage tout en longueur, dont la section correspond exactement à la taille des poêlons.
Là, vous avez le kit raclette complet avec évidemment le fromage à raclette, nature de Savoie, la raclette fumée, le morbier.
La raclette fut inventée au XIIe siècle chez nos voisins helvétiques.
On se dit qu'une semaine sans raclette, c'est une semaine perdue.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Quand température baisse, monte l'envie de raclette, ça c'est le nouveau dicton météo à la mode. Même si on va voir qu'on n'a plus seulement envie de raclette l'hiver à la montagne, ce fromage au succès insolent se laisse fondre en toutes occasions et en toute saison. Vente au sommet, appareil à raclette en quasi-rupture de stock, raclette prédécoupée, saveur truffe ou piment fort, il se passe bien quelque chose de jamais vu autour de ce fromage et de ce plat de montagne. Peut-on dire que la raclette relève encore d'une tradition, ou la raclette est-elle devenue un business très juteux? Autrement dit, existe-t-il une raclette de terroir et une raclette du terroir caisse? Autant de questions qu'on se pose aujourd'hui avec nos deux invités du jour. Nous sommes en direct en ce dimanche. Pierre Coulon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête de la laiterie de Paris. Oui. Dans le 18e arrondissement de la capitale, vous nous en rappelez l'adresse?
74 rue des Poissonniers.
Vous êtes aussi formateur au métier de crémier fromager. Vous intervenez régulièrement à ce micro. La dernière fois, c'était autour des...
Des yaourts.
C'est ça, mais vous connaissez par cœur le sujet de la raclette. Vous nous avez d'ailleurs apporté des échantillons des raclettes que vous faites, des raclettes même créatives. Il est possible de faire des raclettes aromatisées, mais de façon sincère. Pas marketing, avec de vrais bons produits à l'intérieur. Rodolphe Bonivard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes producteur avec votre frère Joris, hein, c'est bien ça?
C'est ça.
De raclette fermière au lait cru. On est à Saint-Avre, dans le massif de la Maurienne, hein, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Savoie?
En Savoie.
Vous nous venez directement de Chambéry?
Un petit peu plus loin, direction Italie, mais c'est ça.
Et vous avez pris le train à Chambéry ce matin, c'est ça?
C'est ça.
Et voilà, vous êtes en direct avec nous par le miracle du TGV. Une raclette de terroir, eh bien ça existe. Vous allez même nous le prouver, puisque vous nous avez apporté de votre montagne une demi-meule qui ne demande qu'à fondre. Attention,
ça.
On va faire chauffer notre appareil à raclette aujourd'hui. À mes côtés également jusqu'à midi, notre libraire gourmande Déborah Dupont, notre chroniqueur vin Dominique Hutin. Salut les copains.
Hello.
Bonjour.
Alors Déborah.
Bon, on va croquer la raclette aujourd'hui.
Croquer la raclette. Croque, monsieur. Ça y est, j'y suis. Ouais. Et vous allez nous parler de livres autour du fromage fondu, Dominique.
Moi, je commence à nourrir un peu d'inquiétude parce que depuis le début de l'émission, j'ai entendu 24 fois le mot raclette. Et moi, j'ai préparé une émission, j'ai compris, sur les raquettes. Alors, ça matche pas du tout. J'ai fait tennis de table, monter au filet, ça faisait. Oui, filet, table, c'est très gastro, mais là, Laissez-moi un petit moment, je vais voir ce que je peux faire.
Rassurez-nous, vous allez nous parler de vin quand même.
Bah, je vais me débrouiller, il faut que je trouve un truc d'ici la fin de l'émission.
Bon, bah écoutez, il a l'air bien réveillé Dominique aujourd'hui. Si vous voulez mettre votre grain de sel dans cette émission, envoyez-nous vos remarques et vos questions sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou bien cliquer sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Tous les contenus de l'émission, nos coups de cœur, nos recettes, nos podcasts sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
À la cantine, le repas n'a pour l'instant rien de très festif alors que Noël approche. Et cela, ce n'est pas du tout du goût de ces quatre collégiennes qui ont réclamé à l'administration scolaire de la raclette dans leur assiette.
En chaussette ou en claquette, j'aime la raclette. Avec elle, c'est la fête, j'aime la raclette.
Le repas tant attendu devrait avoir lieu le 13 décembre.
Un extrait très récent de BFM TV quand quatre collégiennes de Moselle montent le collectif RERC. Rire et raclette chantant, et elles se battent depuis plusieurs semaines pour avoir, figurez-vous, de la raclette à la cantine. Il semblerait qu'elles aient eu gain de cause. Certaines cantines scolaires se sont engagées à servir de la raclette le 13 décembre prochain. Vous savez pourquoi le 13 décembre?
Non, mais j'ignore.
Ah, je pose une colle.
C'est la Saint-Machin quelque chose?
C'est la Saint-Raclette. La journée mondiale de la raclette le 13 décembre, et ces quatre collégiennes, et ben voilà, ont certainement gain de cause et auront de la raclette à la cantine, même si logistiquement c'est pas très simple, visiblement, de rapatrier des appareils à raclette pour faire fondre le fromage dans les cantoches. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, Pierre Coulon?
Alors moi je trouve ça drôle, je trouve ça surtout convivial. C'est l'histoire de ce plat, donc pourquoi pas à la cantine, hein. La raclette, c'est un repas que tout le monde sait faire, donc Rodolphe, ça ne choque pas.
Rodolphe Bonivard, vous êtes étonné par cette initiative ?
Non, pas spécialement étonné du fait de la convivialité, comme vient de le dire Pierre, et puis c'est un plat qui plaît à tout le monde, quoi. C'est
un
vraiment
plat universel.
C'est ça.
Connaît-on, à part nos amis évidemment véganes, hein, connaît-on des personnes autour de nous qui n'aiment pas ce plat ?
Oui, ma fille.
Non.
Elle adore le fromage cru et froid, mais elle n'aime pas le fromage chaud.
C'est pas vrai.
Elle n'a jamais aimé ça, donc elle a fait la raclette avec tout sauf le fromage.
Vous avez essayé d'entreprendre quand même de la. Vous avez entrepris de la convertir, non ?
Oui, mais alors non, en fait, on laisse tomber. On se fait une raclette avec mon fils et elle prend l'accompagnement.
Mais je crois qu'à contrario, le fromage fondu peut être une clé d'entrée dans l'univers du fromage. Ma fille entretient un rapport conflictuel avec les fromages au lait cru, or, elle accepte le fromage fondu.
Très bien, et ben voilà, comme quoi la raclette peut avoir une vraie fonction pédagogique. Bientôt, on va expliquer que ça soigne tous les maux. En tout cas, c'est chouette. Cette actualité de ces collégiennes, c'est pas qu'une anecdote, c'est une actu de plus qui montre la folie, que dis-je, l'hystérie ambiante autour de la raclette. Est-ce que Rodolphe Bonivard, en tant que producteur de raclette, et vous, Pierre Coulon, comme crémier fromager à Paris, vous ressentez vraiment, dans vos métiers, ce succès, cet appel d'air de la raclette ?
Alors,
Pierre Coulon.
Oui, clairement. Hein, nous, on était encore en train de trancher de la raclette jusqu'à 20h hier à la fermeture. Il y a toujours cette commande de raclette pour 10 qui nous finit, tout simplement. Mais effectivement, hier, on a passé notre journée à découper des centaines de tranches de raclette.
Et vous vous rendez bien compte que ça monte en puissance ?
Clairement, ça monte en puissance. On voit que c'est un fromage qui est très consommé. C'est le quatrième fromage produit en France. Hein, donc, on est quand même sur 64 000 tonnes. Alors, on va voir qu'il se cache beaucoup de choses.
Ouais. On va en parler. Il y a raclette et raclette.
Sur un temps de consommation très resserré, par ailleurs.
Un temps de consommation qui reste saisonné. Hein. Nous, on aura toujours quelques demandes en juillet pour la raclette d'été. Mais c'est vrai que la raclette démarre avec le froid, donc à partir de la Toussaint, et va se terminer avec l'arrivée du soleil. Dans toute la France, aujourd'hui, la raclette, on en mange partout et dans toutes les catégories sociales. Et ça, c'est rare sur les fromages que tout le monde mange de la raclette. Et de tous les âges, surtout aussi.
Plus de 2 kilos par an et par foyer. La raclette, c'est quand même considérable.
Oui, et bah, on le voit en ce moment. Hein, nous, on passe notre temps à vendre effectivement que de la raclette. Hein. C'est elle qui prend le devant. Et on le voit sur les quantités de fromage produits en France sur l'année. Hein.
Rodolphe Bonivard, ça fait combien de temps que vous en produisez avec votre frère Jorif en Savoie?
Maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on produit de la raclette. Et là, c'est vrai qu'en approchant des périodes de froid, on a tous les restaurateurs, les copains, les clients qui viennent pour chercher un morceau de raclette ou pour faire son stock pour l'hiver, quoi, voilà.
Car en plus, vous êtes en vente directe. On va voir que vous produisez une raclette dans le cadre d'une IGP intéressante. Vous faites donc une raclette de tradition, enracinée dans un terroir. Vous allez nous l'expliquer dans un instant. Mais vous sentez, justement, les ventes qui augmentent à la ferme quand, voilà, une envie de raclette, on vient directement chez vous pour en acheter ?
Bien sûr, on sent vraiment un gros engouement autour de la raclette, et pas seulement fondue, même à la main, les gens ont pris l'habitude de la manger même sur le plateau de fromage, quoi.
C'est ça.
Ah oui, voilà.
Intéressant.
Oui.
Ça veut dire que la raclette peut être aussi un fromage de plateau, Pierre Coulon ?
Alors nous, c'est plus compliqué sur ce sujet-là. On voit que la raclette, il l'adore fondue. Dès qu'on essaye, notamment en fin de saison, quand il nous en reste un peu, de la mettre sur les plateaux, alors qu'on sait qu'il la mange froide le lendemain, notamment, qu'ils s'en font plein de choses, on lui dit « Oh non, pas de raclette ». Et les gens nous prennent du morbier, alors que techniquement, morbier, raclette, on est quand même sur le même fromage.
Rappelez-nous ce que c'est que le morbier.
Le morbier, c'est ce fromage AOP qui est produit sur le Jura et sur le Doubs, avec cette tranche de cendre au milieu. On le reconnaît assez facilement. Et en termes de recette, on est sur une recette de raclette.
On est dans la même technique de fabrication, la même texture.
Carrément.
Et un goût approchant.
On n'est pas sur les mêmes cahiers des charges, par contre.
Ah,
les
absolument.
Cahiers des charges sont un peu plus restrictifs sur la Franche-Comté que sur les Savoies.
C'est ça. La consommation de raclette est-elle toujours météo-sensible ? Vous nous avez dit que on pouvait se faire de la raclette en plein été. Nous, par exemple, on est allé faire, les auditeurs s'en souviennent peut-être, une émission il y a quelques semaines à Ajaccio, et on recevait un crémier qui nous racontait qu'il y avait un succès époustouflant de la raclette dès le mois de septembre dans la capitale corse. On est en plein cœur de la Méditerranée, ça peut paraître surprenant.
Alors, c'est un plat, effectivement, de rentrée. Après, en ce moment, septembre, c'est plutôt des beaux mois. Donc, nous, on est encore très burrata, mozzarella. Faut attendre que le froid arrive. Nous, par exemple, on vend pas de raclette en été. On n'en a pas dans nos rayons. On va voir qu'il y a d'autres fromages qu'on peut faire fondre également. nous, c'est vraiment l'arrivée du froid, les vacances de la Toussaint qui vont quand même déclencher cette envie furieuse de raclette.
Il paraît que c'est presque mathématique. Dès que vraiment le thermomètre diminue, boum, envie de raclette.
Ah oui, puis alors nous, on est toujours prêts. Donc elles sont là toujours un peu avant et on voit effectivement la file d'attente s'allonger en fromagerie. Les gens se jettent sur la raclette avec le froid. Et les Monts d'Or et tous ces fromages d'hiver. Hein.
C'est ça. Alors on va évoquer les différentes raclettes entre celles de terroir et celles industrielles. Vous avez pas mal de choses à nous dire, cher Pierre Coulon, mais juste avant, petite séquence patrimoine, entre guillemets, peut-on dire que la raclette, je parle autant du fromage que de ce protocole qui consiste à en faire un plat de partage, un plat familial ou un plat à partager entre copains, est-ce que c'est vraiment, ça correspond à une tradition? Souvent, on entend dire que ce sont les Suisses qui auraient inventé la raclette et que ce seraient les Français qui l'auraient popularisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse?
Alors, Suisse et France, ça s'entend rarement sur le fromage et sur les origines, donc c'est toujours un peu délicat, mais alors désolé.
On entend la fondue quand même.
La fondue, c'est un sujet. Je
vous propose, cher Dominique. Je vous propose de faire. On fera une émission sur la fondue un autre dimanche.
C'est une guerre avec la Suisse, j'attends de voir.
Ce qui est compliqué, c'est que. Sur le fromage, c'est effectivement toujours la bisbille. Hein.
Les deux pays se disputent un peu les origines de la raclette, mais les traces historiques, 12e, 13e siècle, ces fameux fromages rôtis, donc ces fromages qui étaient coupés en deux, mis près du feu et raclés, d'où le nom, vont apparaître autour du Valais. Alors après, on a des traces dans les Bauges, dans le massif des Bauges. Finalement, c'est pas tant que ce soit un paysan ou une paysanne qui a eu l'idée de faire fondre du fromage auprès du feu qui va lancer la raclette. La raclette, son histoire, elle va vraiment démarrer avec l'industrie du tourisme, l'industrie laitière et l'industrie de l'électroménager.
Et oui, c'est ça qui est important aussi. Ça veut dire que la raclette, on va dire que cette tradition qui consiste à se découper des tranches, à les faire fondre dans un poêlon en famille, ça remonte pas à très très loin. Racontez-nous les circonstances de cet essor.
Alors, grosso modo, dès les années 70, avec l'ouverture des stations de ski, il y a une gastronomie du fromage qui renaît. On fait renaître les fondus, on crée la tartiflette et on développe aussi cette raclette. Et en 78, Tefal va lancer son appareil.
Et ben voilà.
Avec le téflon. Bah clairement, on peut pas ignorer. Avec le téflon et le six petits poêlons, ce qui va nous donner cette raclette conviviale, ce qui va nous faire gamer les raclettes par la suite. Et ils vont s'accorder à l'époque avec quelques industriels laitiers, et notamment sur les Savoies, pour lancer la production d'un fromage. Et ils vont réussir à mettre un appareil à raclette dans tous les foyers de France. C'est un coup de dingue.
C'est incroyable. Alors aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas que Tefal qui fabrique des appareils à raclette. Il y en a même beaucoup d'ailleurs qui viennent de Chine. Et je me suis renseigné sur les prix. Ça commence quand même à 29 euros. Un appareil à raclette fabriqué à l'autre bout du monde, avec ce que ça suppose d'ailleurs d'impact environnemental.
Oui, clairement. Après, on voit aussi aujourd'hui des jolies offres avec des bougies chauffe-plat, des trucs un peu moins énergétiques. On pourrait avoir un magasin d'appareils à raclette aujourd'hui.
C'est ça. Rodolphe, une réaction sur cette tradition qui est finalement assez récente et qui correspond quand même à un coup de maître marketing.
Oui, c'est un coup de maître et puis peut-être un besoin aussi du tourisme pour se retrouver autour d'un plat qui est très convivial et qu'il faut pas se mentir, qui est lourd quand même et qui correspond bien aux vacances d'hiver, quoi.
C'est ça, qui correspond bien aux vacances d'hiver quand on a fait une grande journée de ski, on mange une raclette, on culpabilise par conséquent un peu moins. Alors, vous évoquez justement la lourdeur de la raclette, éventuellement un petit point nutrition. Est-ce que vous êtes au fait là-dessus, Pierre Coulon?
C'est compliqué comme point nutrition, François-Régis, que là, très clairement, je sais que je vends pas des kiwis.
On va casser l'ambiance, tous nos auditeurs vont éteindre leur poste de radio.
Et puis, alors, la raclette, c'est un repas plaisir, faut pas en manger tous les jours, mais très clairement, un fromage qui c'est pas le plus gras, hein. Pâtes pressées cuites sont plus grasses. Plus un fromage est mou, moins il est gras. Après, pourquoi ça reste du fromage, parce qu'il y a plus d'eau dedans. Mais ça reste du fromage, hein, avec de la charcuterie ou pas, des pommes de terre. On ne parle pas d'une salade grecque, clairement.
C'est ça. Mais par exemple, on peut considérer que le fromage à raclette est moins gras que des fromages à pâte dure comme le Comté ou le Beaufort.
Oui, bien sûr. Oui, c'est Rodolphe ce que nous explique Pierre par rapport à l'eau qui reste dans le fromage. Le Beaufort ou le Comté, par exemple, sont des fromages beaucoup plus gras. Et là, sur la raclette IGP de Savoie, on a une raclette qui est partiellement écrémée. Donc on a une raclette qui est encore moins grasse.
Mais rassurez-nous, il y a quand même du gras.
Ah oui,
parce que le gras, c'est le goût.
C'est ça.
Très bien. Et dans un instant, on va justement découvrir votre raclette IGP de Savoie. Vous allez nous raconter, Rodolphe, comment elle se fabrique, à quoi correspond finalement ce fromage. On va voir que vous répondez à un cahier des charges très précis. On parlera aussi, évidemment, avec notre ami Pierre Coulon, des versions industrielles. Et là, c'est un peu moins reluisant. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission avec Julien Dumont à la technique, Nadia Chougui, Marc Gopage pour la préparation, Djoubaka pour la programmation musicale, M avec le titre Grandes oreilles, ouvrez aussi grande votre bouche, car on a faim de raclette sur France Inter.
avec mes grandes oreilles. Au loin j'entends les abeilles et tous les appareils. La vie fait des merveilles, de Maubeuge à Marseille. Tous ils sont mes merveilles et de la tour Eiffel. J'entends même le soleil avec mes grandes oreilles.
C'est marrant, il y a une très très bonne humeur. Il paraît que Dominique Hutin passait la nuit blanche, mais malgré tout, il est en éveil. Et ça, ça absolument doit être l'effet raclette. Ah, non, d'accord. Non, non, en fait, il dort.
Pardon.
Oui, oui, c'est ça.
Les poêlons commencent à chauffer et c'est vrai que ça commence à être très intéressant ce qui se passe de l'autre côté de la table.
C'est la fête de la raclette sur le plateau dont on va déguster. Je vous livre un petit message que je reçois à l'instant de notre ami Thierry Kasprowitz. C'est un journaliste gastronomique qui vit, figurez-vous, à La Réunion. Et il écrit « L'hystérie de la raclette a même atteint La Réunion dans l'hémisphère sud. Durant l'hiver austral de mai à septembre, on en fabrique en local. Et il peut aussi faire froid ici, dans les hauteurs de l'île. Vive la raclette. » Est-ce que vous imaginiez ça quand même ?
L'hystérie de la raclette, c'est mieux que la listeria peut-être.
Oh, on va pas parler de mots cruels.
Incroyable quand même, le phénomène raclette qui effectivement atteint les confins de la France. Quoi. C'est quand même quelque chose d'assez dingue. Rodolphe Bonivard, vous êtes donc producteur de raclette à Saint-Avre. On est en Savoie, j'imagine que vous exercez votre métier dans des paysages superbes que je connais un peu.
C'est ça, dans les paysages qu'on peut connaître au niveau des stations de ski ou de l'enneigement l'hiver et qui sont tout aussi jolies l'été où on a nos animaux qui pâturent à la place des stations de ski, voilà.
La raclette n'est pas votre premier métier avec votre frère Joris ?
Non, en fait, moi, quand je suis sorti de l'école, j'ai fait un CAP de transformation où j'ai appris à faire le fromage. Et après, j'ai repris l'exploitation familiale avec mon frangin.
Et qu'est-ce que vous faites au départ ?
Au départ, on produit du lait pour le Beaufort.
Ah ! Voilà. Ça, c'est une AOP intéressante, Pierre Coulon. Hein.
C'est une des plus belles AOP de France. Si il y a des charges les plus restrictives, c'est parfait.
Donc ça veut dire que vous avez, si vous fournissez du lait pour l'appellation Beaufort, qui est un très beau fromage à pâte dure, c'est que vous avez de sacrées exigences en termes de cahier des charges.
C'est ça, la zone Beaufort est très exigeante en termes de cahier des charges et quand on s'est tourné vers la raclette, c'est naturellement qu'on a gardé le même cahier des charges, entre guillemets, sur nos façons de travailler. Quoi, voilà.
Comment ça se passe ? Vous avez quel troupeau ?
Alors on a un troupeau de race Tarine Abondance.
Tarine et Abondance.
Voilà.
Combien de bêtes ?
On a 70 vaches laitières avec leur suite quoi pour le remplacement du troupeau.
C'est ça.
Donc voilà, et nous produisons du lait pour le Beaufort et la raclette comme vous l'avez dit, la tome de Savoie IGP aussi.
Et vous nous l'avez apporté, je l'ai goûté, elle est absolument délicieuse.
Voilà, et nous fabriquons tout en lait cru. Voilà, et nous gardons une partie de nos fromages en affinage sur la ferme que nous vendons sur la ferme. Et l'autre partie, nous la vendons à des affineurs, à différents clients, quoi. Voilà.
Et la raclette, finalement, c'est un métier supplémentaire que vous avez décidé d'exercer il y a assez peu de temps, 2 ans et demi, hein, vous l'avez dit.
Oui.
Pour finalement, comment dire, rentabiliser ou valoriser le lait que vous produisez.
Oui, c'est une question de diversification. Aujourd'hui, faire que du lait pour le Beaufort, c'est très très intéressant, vraiment très intéressant. Sauf qu'il y a une grosse demande sur la raclette l'hiver, avec en ce moment vraiment une mode sur la raclette. Et c'est vrai que c'était l'occasion d'allier les deux. Ma passion pour la fromagerie et puis l'élevage en même temps. Donc voilà, c'est tout naturellement qu'avec mon frère, on s'est tourné sur la raclette IGP.
Vos bêtes, abondance et tarine, essayons d'imaginer leur vie. Beaucoup de pâture
beaucoup
dans
de pâture,
les espaces
oui.
naturels.
De avril à novembre, mm-hmm. elles restent en pâture. Et après, l'été, elles sont dans les bâtiments au chaud parce qu'il fait froid chez nous l'hiver. Mm-hmm. Et là, elles mangent du foin qu'on a produit l'été.
D'accord.
Voilà, sur le secteur.
Vous pourriez être en agriculture biologique ?
Presque, oui. Oui, bah en fait, on n'est pas dans une démarche d'agriculture biologique, mais on s'en rapproche très fortement, quoi. Voilà, on n'a pas cette idée-là du bio, mais dans nos façons de travailler, on y est presque.
C'est ça,
voilà.
Vous êtes vraiment dans un travail naturel. Vous respectez le cahier des charges de l'indication géographique protégée raclette de Savoie. En quoi consiste-t-il ? Comment fabriquez-vous votre raclette ?
Alors notre raclette de Savoie, nous la produisons déjà premièrement au lait cru, ce qui est important.
Et oui. Et sachant que le lait cru, pardon, mais dans l'IGP, certes, alors la majorité de l'IGP est au lait cru, mais le lait thermisé, alors, Pierre Coulon est aussi autorisé.
Que la majorité soit au lait cru, je ne sais pas. En tout cas, le lait thermisé, c'est qu'effectivement, on peut chauffer le lait. Donc thermisation, c'est 63 jusqu'à 72 degrés, c'est avant la pasteurisation. C'est un premier traitement thermique.
Donc c'est un traitement thermique, on va dire, un peu plus light
que
la
pasteurisation. Ça reste un traitement thermique. Ça reste du lait qui est chauffé pour détruire et qui détruit une grosse partie des bactéries naturelles du lait cru.
Ça alors rien que à voir. Vous travaillez au lait cru. Qui dit lait cru dit plus d'intensité aromatique dans le produit final.
C'est ça, il y a déjà beaucoup plus d'exigences dans la production parce que nous n'avons pas la thermisation pour nous aider dans la production. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup plus d'arômes, beaucoup plus de goût dans nos fromages derrière, quoi.
C'est ça. Vous chauffez le lait, mais à des températures très faibles dans la raclette.
C'est ça. Alors, on est sur une fabrication où on va emprésurer le lait sur une température de 33, 32, 34 degrés. Et après décaillage, on va réchauffer notre cahier jusqu'à à peu près 38 degrés. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on monte pas plus. Du coup, c'est très raisonnable pour un fromage.
Ensuite, vous formez des meules.
C'est ça.
Elles font quelle taille et quel poids?
Alors c'est des meules qui font entre 6 et 8 kilos, mm-hmm. qui font une trentaine de centimètres de diamètre. Donc voilà, avec un croûtage un petit peu or, un petit peu, comment on pourrait dire, qui est très joli comme ça, ouais. À l'œil, quoi. Voilà, qui est très appétissant.
Croûte ou pas croûte dans la raclette fondue? Allez, petit
croûte.
Débat rapide.
Croûte.
Vous votez croûte ou pas croûte?
Croûte.
Dominique Hutin a la bouche pleine et visiblement il a la croûte dans la bouche. Et Rodolphe, vous recommandez à vos clients de consommer la croûte, c'est là où
bien
se trouve
sûr.
Le goût, non?
Oui, et puis de toute façon dans une raclette, quand on mange la croûte, c'est là qu'on a du croustillant, c'est là que c'est intéressant aussi, quoi. C'est un ensemble.
Alors il y a deux cobayes consentants qui dégustent la raclette IGP de Savoie de Rodolphe Bonivard. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Dominique?
Et je suis assez surpris parce qu'on cherche souvent des goûts assez prononcés, parler de la croûte. Là, on est sur la finesse. On est sur quelque chose d'extrêmement délicat, un peu filant par ailleurs, mais je pense que c'est lié aussi.
La fonte est géniale.
Voilà. Peut-être qu'il y a la température aussi, mais c'est la finesse.
C'est une force de l'IGP d'avoir un fromage très filant. Et on peut constater qu'il rend pas du tout d'huile et ça on obtient ça par rapport au délactosage qu'on va parler justement.
Et ben voilà, il a prononcé ce mot barbare que personne ne comprend. Je suis sûr que nos auditeurs sont totalement perdus derrière leur poste de radio. Même moi, j'avoue avoir. Je n'avais qu'une vision approximative de cette technique, le délactosage. Kezako, en quoi cela consiste?
Alors le délactosage, c'est après le chauffage du lait, on va emprésurer le lait, on va découper le cahier, mm-hmm. la masse de lait solide, et là on va voir apparaître le petit lait. Voilà,
le lactosérum.
Le lactosérum. Nous allons remettre à brasser notre cuve. Et au bout de 5 à 10 minutes, nous allons arrêter notre cuve et nous allons enlever entre 15 et 20% de petit lait, de lactosérum, pour le remplacer par de l'eau. Ce qui aura pour effet de couper l'acidification et de nous apporter des pâtes beaucoup plus souples et beaucoup plus filantes.
Donc voilà. Ça joue sur la texture de fonte.
Voilà, exactement. On joue vraiment sur la texture de fonte.
Mais alors, est-ce qu'on peut reprocher à des fabricants de raclette ce délactosage? Qu'est-ce que vous en pensez en tant que crémier fromager, Pierre Coulon?
Et en tant que fromager tout court, oui. Le délactosage, pour moi, c'est vraiment une étape de fabrication, quelque chose qui a été un peu renforcé dans les années 70, notamment pour stabiliser un peu les goûts, permettre des plus belles fontes et accélérer un peu l'affinage, notamment parce qu'on lessive le lactose, bon, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est une des étapes de la fabrication de la raclette, du morbier, mais également de la mimolette, du gouda. Tant que c'est bon, je ne me pose pas de questions. Puis, c'est de l'eau. Donc, c'est vrai, quand j'ai fabriqué en alpage et que je vois de l'eau d'alpage qui arrive dans la cuve, c'est pas des bidons de soude. On reproche, néanmoins, en délactosage, de limiter un peu les goûts. Et c'est vrai que c'est aussi le réflexe perpétuel qu'ont les industriels pour faire un truc qui s'appelle des pâtes stabilisées. Donc, des choses avec moins de goût, qui gagnent plus vite. Si le produit est bon, c'est quelque chose qui, moi, me choque pas du tout.
Donc, vous n'avez pas forcément tendance à penser que c'est systématiquement une solution de facilité.
Non, pas. Et c'est quelque chose qui est assez vieux. Hein. Moi, quand je fabriquais du reblochon, j'ai vu des vieilles me parler de laver le cahier à certaines périodes. Donc, c'est une étape de recette. Quand c'est bien fait avec un bolet et à petite échelle et que le résultat est bon, moi, j'ai vraiment rien contre.
Et le délactosage, il est recommandé, il est obligatoire dans l'IGP Raclette de Savoie?
Il est obligatoire dans le cahier des charges de la raclette IGP, bien
pour
sûr.
Pour obtenir justement cette qualité de fonte?
Oui, c'est ça.
Et est-ce à dire que le délactosage enlève par conséquent de la matière grasse?
Non, pas spécialement. Non, il va y avoir un petit peu de fonte, mais ça va surtout enlever le lactose et ça va vraiment donner cette qualité de fonte. On va voir que si on délactose pas, il faudra affiner deux fois plus longtemps. Alors on peut faire de la raclette sans délactose et malgré tout.
Qu'est-ce qui fait le goût, Rodolphe Bonivard, de la raclette? Au-delà évidemment de la qualité de votre lait cru, issu, on l'a compris, d'un élevage extensif, dans un biotope paradisiaque pour ces vaches tarines et abondance, c'est aussi, j'imagine, l'affinage de la raclette. Et là, quelles sont les règles de l'IGP?
Alors là, sur l'affinage de la raclette IGP, on est sur une obligation de planche en bois.
Oui.
Nous n'avons pas le droit de les affiner sur des planches en plastique et c'est des caves souvent dans des fermiers comme pour moi, c'est des caves naturelles quoi.
D'accord.
C'est des caves qu'on se transmet en famille et qu'on utilise toujours les mêmes quoi, voilà.
Quelle durée de d'affinage pour
là, on est sur un affinage minimum de 50 jours sur la raclette IGP.
D'accord.
Et après, on peut aller jusqu'à 3 mois et demi. Voilà, ça.
Et celle-ci, en l'occurrence?
Celle-ci à 2 mois.
D'accord. Voilà. Et vous-même, en tant que producteur, entre une, parce que il est vrai que quand on rentre chez un fromager, ce n'est jamais la question qu'on pose. On demande éventuellement d'où elle vient. On demande si elle est au lait cru ou si elle est au lait pasteurisé. Mais on demande rarement la durée d'affinage alors qu'on pourrait le faire pour un comté. Or, on se rend compte que la durée d'affinage dans la raclette, ça fait aussi le goût. Vous-même, vous me disiez en préparant cette émission, Rodolphe, qu'entre une raclette de votre production de 2 mois d'affinage et de 3 mois et demi, c'est pas la même chose en termes de goût.
Ah non, c'est pas du tout la même chose. Après, le seul problème qu'on a au niveau de la raclette, c'est sa saisonnalité qui est quand même un petit peu ancrée. Et du fait, c'est qu'à l'automne, on a des raclettes qui sont un petit peu plus affinées. Quand on sort du mois de février, on est à 50 jours de vente, quoi, parce que vraiment, on se fait vider les caves pendant la période hivernale, quoi. C'est vraiment ça.
Il y a quand même quelque chose qui interpelle, c'est le lieu. Vous parlez de cave. Je fais le parallèle avec le vin, pardon, mais on a des levures qui sont dites des levures de chai, c'est-à-dire des levures de cave, dont on sait aujourd'hui qu'elles vont beaucoup typer le produit, en l'occurrence le vin. On peut imaginer que des caves ancestrales typent aussi. Est-ce que d'un fermier à l'autre, est-ce qu'on peut reconnaître une typicité du lieu ou pas du tout?
Bonne question.
On pourrait, mais pour vraiment retrouver des typicités, faudrait affiner un petit peu les fromages pour arriver à trouver des typicités sur des fromages à 2 mois, je suis pas sûr qu'on ait vraiment une grande différence entre
une signature de terroir.
C'est ça, voilà. Ouais.
Mais par contre, elle est cette signature dans le lait, on l'a bien compris, et puis dans vos races bovines et dans tout ce qui fait finalement la qualité de votre produit exceptionnel. On va parler dans un instant avec Pierre Coulon d'une autre réalité, celle des fromages à raclette. On va voir que raclette et fromage à raclette ou raclette, on va s'interroger justement sur la définition réglementaire de ce fromage. Mais juste avant, on fait une petite pause liquide avec Dominique Hutin.
On va déguster sur France Inter.
On part en Savoie avec vous, c'est ça? Non, pas tout à fait.
Presque, c'est bien tenté. On va boire, mais pas n'importe quoi. Je vais vous convier à une première. Je pense que c'est une première mondiale.
Ouh.
J'ai l'honneur de produire aujourd'hui la première chronique qui pourrait être remboursée par la Sécurité sociale. Et pourquoi ? Parce qu'elle est porteuse d'une allégation santé de première importance avec la raclette « Ne buvez pas d'eau ». Le danger est grand, chers amis, avec l'eau, de voir le fromage se solidifier dans l'estomac. Ne faites pas ça. Ou alors vous me signez une décharge, on trouve un système. Ne buvez pas d'eau avec la raclette, c'est spécialement important. Je le dis en plaisantant, mais que dit la science ? La science nous dit que pour accompagner la raclette, nous savons que 1. Le vin, quand même, il faut le dire, a tendance à ralentir la digestion. Ça, c'est pas formidable. Et des études recommandent, en termes de digestion, de s'en remettre plutôt à... Alors tiens... À quoi ? Est-ce que vous avez une idée ? Quelle boisson pourrait être le compagnon idéal en termes de digestion, spécialement pour la raclette ? Ne cherchez pas, c'est pas ce que vous pensez. Je vous donne la solution tout de suite, on va gagner du temps.
Du thé ?
Bravo. Hey. Déborah, bravo. Thé noir, bravo, oui. Bravo, bravo.
Je le savais, j'avoue.
Alors maintenant que nous sommes forts de ces recommandations, nous allons opter pour le vin blanc. Voilà. Mais pas n'importe quel vin blanc. Alors je vous propose, on va filer, pour filer la métaphore du fromage qui file justement, dans un triangle d'or qui est balisé à l'ouest par Mâcon, par Lyon, à l'est par les Deux-Savoies. C'est un territoire qui n'est pas forcément très bien identifié de tout le monde. On est dans le département de l'Ain, ça s'appelle le Bugey. Alors le Bugey, forcément, avec cette croisée des chemins entre la Bourgogne et la Savoie, tout ça va déteindre sur le patrimoine végétal local avec... Tout un pan qui est extrêmement connu, un périmètre international de cépages comme le Chardonnay, le Pinot Noir, qu'on connaît très bien par ailleurs. Et puis d'autres cépages qui vont dire un peu le cousinage avec cette Savoie voisine. L'exemple, l'Altesse pour les cépages blancs, pour les vins blancs en tout cas.
Quel joli nom de cépage d'ailleurs.
C'est joli et c'est bon. Et la Mondeuse, par exemple, pour les rouges. Je vous dis un tout petit vignoble, effectivement, c'est pas une vue de l'esprit. 490 hectares, situés entre 220 et 550 mètres d'altitude. Voilà. Petite montagne qu'on pourra gravir, par exemple, en chaussant une paire de raclettes, si vous voulez. Bon. Oh. Alors, je vous propose qu'on parte à la source. On va se... J'ai quand même distribué quelques verres qui, normalement, oui, sont encore pleins, c'est bon signe. Vous êtes en petite forme. Très bien. J'ai formé une promesse avec l'idée du blanc, donc j'ai rempli avec des vins blancs. Et j'ai sélectionné 5 domaines qui sont pour l'essentiel des tout nouveaux domaines. Des domaines qui sont vraiment pris par des jeunes depuis 2019, depuis 2020, ou qui sont le fruit d'une transmission familiale avec une jeune génération. Donc 5 domaines peu ou pas connus, je les cite vite fait, les Mangeux de Pierre, la cave de Buisin, le vignoble Pèlerin, le domaine Bracci, et le domaine d'Issy-la. Dans votre verre...
Tout ça est à retrouver, Dominique, évidemment, sur notre site internet, oui, hein, puisque une fois de plus, vous avez fait un carnet de dégustation.
Absolument. Vous avez trouvé les coordonnées, les prix, les commentaires, etc., etc. Donc, une petite roussette de montagneux du domaine d'Issy-la. Voilà. Bouche très fraîche.
C'est ce qu'on goûte, là ?
C'est ce que vous goûtez. C'est bon. Gras, c'est tendu. Ça invite aussi des notes pierreuses que vous pouvez attraper. Il y a des jolis amers très, très fins. Mm-hmm. Et puis, une petite touche acidulée qui va apporter du nerf à l'ensemble. Voilà, c'est une espèce de réussite un peu façon double mix, parce qu'en même temps, quelque chose de très expressif et en même temps, quelque chose d'extrêmement fin. Et comme le vignoble est aussi planté de rouge, je vais vous proposer après une dégustation alternative avec ce rouge, avec le vignoble Pèlerin que lui aussi, vous allez retrouver dans le carnet de dégustation. Alors, vous allez les retrouver sur mon site, mais comme tous les dimanches, je produis maintenant une autre chronique écrite, celle-là, qui traite, là encore, bah oui, de Bugey, mais aussi d'un natif de l'Ain qui s'appelle Brias Savarin, qui était très gourmand.
Eh oui, le grand gastronome était natif du Bugey.
Voilà, de Belley, pour ceux qui connaissent. Mmh. Il est l'auteur de La physiologie du goût, un ouvrage gastronomique qui va faire date en 1825. Et notre grand homme, Brias Savarin, était avocat, politicien, auteur et vigneron. Mmh. C'est pas de ma faute s'ils portent un nom de fromage, mais ça c'est, voilà. C'est l'histoire qui l'a dit. Et pour finir, permettez que je vous appelle chers amis caséologues, vous connaissez le mot peut-être ?
Oh, oui.
Caséologue. Alors pour faire simple, le caséologue est au fromage que l'œnologue est au vin. Ce qui laisse penser que, comme moi je fais la radio, je suis radiologue par exemple, on peut imaginer. Pour finir, on a maintenant une certitude, pas d'eau pour accompagner la raclette, mais j'aimerais que nous ayons une pensée. Permettez-moi d'être sérieux 2 secondes, si cela est possible. Une pensée pour une personne, la personne qui a inventé l'eau et qui doit se sentir bien triste en ce jour de raclette, en ce dimanche.
En tout cas, il ne doit pas être à l'eau. Hein,
et qui que tu sois, personne qui a inventé l'eau, homme geyser ou femme fontaine, hein, je ne sais pas, sache qu'en ce dimanche, nous ne boirons pas de ton eau. Voilà. Nous ne céderons pas à cette injonction. Nous céderons à une autre injonction en entonnant cet hymne. Bugey, 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 j'ai bu. Oui, j'ai bu, mais j'ai bu le meilleur. Ce qui permet de dire que l'un est à jamais le premier.
Ah ouais, il est vraiment temps de se remettre de nos émotions et de faire une pause dans un... n'importe quoi. Dans un instant, Pierre Coulon nous parle des fromages industriels. Et là, ça va être un peu moins appétissant. Et Déborah est en train de préparer. Allez, on dit pas tout, mais juste un petit teasing.
Ouais, je commence à monter des crocs et on va pas tarder à faire chauffer l'appareil.
Avec Bad Religion, et on va voir que la mauvaise religion, c'est aussi une certaine raclette industrielle.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Pour une bonne raclette, voici ce qu'il nous faut. Bien entendu, toutes les proportions que je vous donne sont prévues pour deux personnes. Premièrement, un appareil à raclette pour 8 personnes. 15 kilos de pommes de terre, je vous conseille la Bernadette. 17 kilos de fromage à raclette. Par personne. Ne pas lésiner sur la qualité du fromage. C'est l'ingrédient star de la raclette. La charcuterie est pour moi facultative. Accompagnement possible pour votre raclette, pommes de terre ou fromage à raclette.
Vous l'avez reconnu, vous savez qu'à France Inter, on a l'ambassadeur officiel de la raclette, Dominique.
Émeric Lompré, qui s'est fendu de grands messages pour défendre, d'ailleurs, les jeunes collégiennes que vous avez passé tout à l'heure en extrait.
C'est ça.
Voilà, c'est un grand défenseur. Pardon, j'ai encore la raclette dans la gorge.
Et pourtant, il n'est pas savoyard comme Rodolphe Bonivard, il est lillois. Voilà, mais en tout cas, il adore la raclette visiblement et en très très grande quantité. On va changer un peu d'ambiance, Pierre Coulon. Déjà, la raclette, le mot raclette, sur le plan réglementaire, je sais que Rodolphe aime bien faire la distinction entre raclette et fromage à raclette, mais ça correspond à une définition précise.
Oui, en fait, on a quelque chose en France qui s'appelle le décret fromage. Donc c'est la première base de réglementation autour du fromage, et le fromage à raclette ou raclette fait partie des fromages qui sont définis. Définis, c'est-à-dire que ça renvoie au lait de vache, à un certain format, à un temps d'affinage minimum, mais en aucun cas on ne nous parle d'un terroir ou de lait cru ou de choses comme ça. C'est la première base réglementaire en France.
Donc ça veut dire qu'une raclette que l'on achète au supermarché, je sais qu'on trouve désormais de l'IGP de Savoie, hein, alors qu'est en tranches prédécoupées, sous emballage plastique, etc. Mais on peut trouver vraiment, c'est la foire à tout en fait. Hein.
Alors moi j'ai passé ma journée d'hier, je vous remercie d'ailleurs, parce que à manger des raclettes de supermarché. Et alors effectivement, alors j'ai goûté beaucoup de choses.
Toujours envie ?
Toujours envie, effectivement. J'en ai beaucoup pour mes poules en Normandie dans mon sac, mais c'était l'occasion de, effectivement, de revoir ça sur des prix qui sont d'un compétitif, mais où il se cache énormément de choses derrière.
C'est-à-dire, c'est vrai que quand on retourne l'emballage, qu'on regarde l'étiquette, on peut y trouver des gros mots.
Alors, on y trouve des gros mots. Il faut comprendre d'abord que c'est des fromages qui sont faits par des géants laitiers. La plupart du temps, quand on regarde le numéro d'agrément, là, il estampille avec FR, on va tomber sur des FR22, ça veut dire que ça vient de Bretagne, ça vient du Nord, ça vient de la Meuse, ça vient des Savoies. Faut pas se leurrer, hein. Le géant laitier, on peut aussi le trouver derrière un signe de qualité ou derrière un AOP, hein, comme l'IGP Raclette.
De quel géant laitier s'agit-il?
Alors, les trois, hein, géants laitiers, ça va être Lactalis, Savencia et Sodiaal, qui sont présents sur le marché de la raclette. Les deux leaders.
Et combien flairer le filon, il faut bien le dire.
Bah, les deux leaders, ça va être Richemont avec Savencia et Entremont avec le groupe Sodiaal. Ça, c'est vraiment ce qu'on va trouver en raclette. Après, moi, ce qui me gêne plus, c'est la lecture des étiquettes. C'est que, on commence à voir beaucoup de choses apparaître. Alors, moi, le plus choquant, c'est la natamycine, le E235. C'est un antibiotique. C'est un antibiotique qui est utilisé parce qu'il est antifongique. Antifongique, il empêche qu'il y ait des choses qui poussent sur ces tranches de fromage à raclette qui vont rester pendant deux semaines à l'air.
Parce que ce qui les fragilise, évidemment, c'est aussi d'être prédécoupé, ces raclettes.
Ah, de toute façon, un fromage qui est prédécoupé, on sait qu'au bout de 5 jours, on ne pourrait plus le garder. Donc la natamycine va permettre ça. Ensuite, c'est ce qu'on appelle les coagulants. Coagulants, il faut faire attention. On a 35% des présures qui sont issues du génie modifié en France. C'est ces fameux coagulants microbiens. Attention également, il y a une loi de 2006 qui permet maintenant à l'industrie agroalimentaire de ne pas les spécifier sur l'étiquette. C'est quand même fou. Il y a des choses qu'on appelle aujourd'hui les auxiliaires de fabrication qui ne figurent plus sur l'étiquette des ingrédients, notamment les enzymes qui peuvent être utilisées, qui sont ou pas de génie modifié.
Incroyable. Quel autre type d'additif?
Alors, notamment du caramel pour les couleurs. Donc
là, on parle vraiment d'un colorant.
On parle d'un colorant. Pour que ce soit orange, il faut du temps. On parle de 2 mois d'affinage pour que les levures se développent. Un colorant, ça permet de faire plus rapidement les choses. Et c'est vrai qu'au final, on se retrouve avec un fromage dedans qui a des antibiotiques, qui est fait avec de la présure OGM, et en plus qu'il y a du caramel, et aussi qui, à 8 euros le kilo, et ça j'insiste là-dessus, a le léger goût amer de la misère des producteurs laitiers. C'est-à-dire que on est face à des grands groupes qui payent un litre de lait à 35 centimes en ce moment, et qui s'en vantent. Donc les producteurs laitiers continuent d'alterner les périodes de crise et les périodes d'un peu mieux qui résorbent les périodes de crise, m'empêche que depuis les années 90, on a divisé par 4 le nombre d'exploitations laitières en France. Donc derrière la convivialité peut aussi se cacher un système qu'il ne faut pas spécialement encourager. Une raclette, elle doit être au moins entre 14 et 20 euros, que ce soit chez le producteur ou chez le crémier, parce que malgré tout, c'est du lait, et c'est beaucoup de lait, et c'est pour ça qu'il ne faut pas en manger tous les jours. Donc c'est pas grave que ce soit gras, parce qu'une raclette, si vous en mangez tous les jours, vous ne mangerez pas les bonnes.
Rodolphe, vous vendez à combien votre raclette?
Nous, notre raclette à la ferme, elle est vendue à 15 euros le kilo.
Mmh. D'accord, et voilà. Vous vous en sortez bien?
Oui, on s'en sort bien, oui.
Qu'est-ce que vous pensez de notamment ce business du lait, de cette course aux raclettes les moins chères possibles, de ces additifs dans la raclette et sur la croûte?
Moi, ce que j'en pense, c'est ce qui fait plus mal au cœur, c'est pour les producteurs qui sont derrière, quoi, parce qu'au final, on pourrait faire vivre ces producteurs, mais on les maintient dans cette misère, et c'est complètement dommage, quoi. C'est complètement dommage, parce que on parle de raclette industrielle, mais on parle de gros groupes laitiers. Mais à la base, c'est quand même des producteurs qui travaillent avec leur terroir quand même. Donc, c'est pas forcément un mauvais lait à la base.
Ça, voilà. Il faut en avoir conscience quand on mange une raclette, d'autant que, alors là, vous m'avez appris quelque chose en préparant cette émission, un chiffre édifiant, la proportion, quand on mange de la raclette, et on sait à quel point les volumes sont importants, quelle est la proportion de ces raclettes qui sont justement d'origine industrielle et non pas des raclettes de terroir?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une réalité en France, mais qu'il est temps d'entendre. On a 5 fromages sur 6 qui sont au lait pasteurisé. On est à 15% de volume de fromage au lait cru en France, alors que c'est l'essence de l'image de notre pays. On est à 95% de vente dans la grande distribution, c'est-à-dire que la vente directe représente le reste entre les crèmeries et les producteurs. Oui, les chiffres sont plutôt déprimants, malgré tout, sur le fromage. Je suis pas d'un naturel déprimé, mais en la préparant aussi, cette émission, effectivement, ces chiffres sont un peu alarmants.
On est à plus de 90% des raclettes consommées en France qui sont issues justement, qui sont achetées au supermarché et qui sont en général des raclettes industrielles qui ne correspondent, qui n'ont plus, soyons clairs, aucune notion de terroir malgré les jolis visuels de montagne qu'on trouve sur les étiquettes, le côté bleu, blanc, rouge, lait de France, etc. Il faut rester vigilant, décrypter les étiquettes en achetant des raclettes, aller l'acheter à la découpe si possible, aussi c'est moins énergivore, et puis ne serait-ce que pour les emballages plastiques aussi, ça c'est une autre question.
Je me permets juste un point, c'est que derrière un emballage de fromage, il y a un numéro qui commence par FR, vous le tapez en respectant les chiffres et les points et vous arrivez sur le listing des établissements. C'est une liste du ministère de l'Agriculture, donc vous savez qui est derrière votre raclette quand vous l'achetez dans une enseigne de distribution.
J'ai sous les yeux, ou plutôt sous le nez, une raclette incroyable. Alors là, qu'est-ce qu'il y a?
Alors, je sais pas si...
Vous avez l'air de faire la grimace, Pierre Coulon, que se passe-t-il?
Parce que, je ne sais pas, François Régis, c'est pas celle au CBD.
Attendez, racontez-nous, parce que vous vous êtes lancé dans des raclettes aromatisées. Moi, je pensais que c'était vraiment un truc marketing, quand on voit raclette saveur truffe.
Ouais, alors, saveur truffe, faut se méfier, faut vérifier la présence des arômes ou pas. On peut aujourd'hui en avoir sans arômes, mais par contre, elles sont plutôt rares. Ce sera les Suisses qui nous font ça. Nous, à la laiterie, on rajoute nos épices nous-mêmes parce qu'on pense que tout est ingrédient. Donc c'est des raclettes qu'on coupe et sur lesquelles on rajoute des aromates. Alors le CBD, c'est pas celui dont je voulais parler en premier parce que là la
CBD. Alors CBD, on y est. En un mot, CBD, rappelez quand même ce que c'est.
Le CBD, c'est donc cette variété d'herbe mais qui est légale en France parce qu'elle a pas d'effet psychotrope.
Vous pouvez
préciser, peut-être. Oui, et j'ai pas le droit de communiquer sur un effet. Nous, ce qu'on aime, c'est le goût derrière tout ça.
Donc... On parle de chanvre, cannabis, etc.
Oui, voilà. Oui, c'est tout à fait légal.
C'est légal. D'ailleurs, vous connaissez l'expression t'as fumé la raclette ?
Bah, maintenant, on l'a lancé, ça.
Quel autre parfum vous faites ?
Alors, nous, on va travailler, on en fait une au zaatar, parce qu'on adore cette épice. On en fait une avec un poivre fumé qui vient en direct d'une plantation au Cambodge. Mm-hmm. On a Nomi Épice qui nous a ramené un piment qui s'appelle piment d'Alep, mais qui est cultivé aujourd'hui en Turquie, parce que le producteur est retourné s'installer là-bas. Et c'est vrai que ces épices nous rappellent aussi que la raclette, c'est un moment qui est convivial. Donc, il y a les puristes qui veulent que du fromage nature. Et puis, bah, il y a aussi des gens qui ont un peu envie de s'amuser et de gammer. Et c'est vrai que c'est aussi l'avantage de l'appareil à raclette, c'est qu'il y a 6 poêlons, donc on va pouvoir tout faire fondre.
C'est moi, en tout cas, je suis tombé. Ça doit être CBD, ouais.
Oui.
Je suis tout d'un coup brutalement zen. Mais attention, pas d'effet psychotrope, évidemment. Ne plaisantons pas avec la réglementation. En revanche, ça, c'est censé avoir des effets calmants et bienfaisants.
Puis au goût, c'est plutôt bon.
Et ça me fait du bien. Et c'est délicieux. Il y a une note un peu résineuse, herbacée.
Ceci dit, puisqu'on est dans le végétal, moi, en période estivale, pour les raclettes d'été, je rajoute des fibres en ajoutant des tomates dans le poêlon, des légumes, ou par exemple, en ce moment, je le fais avec des champignons. Mm-hmm. Et vous rajoutez des fibres, et puis vous déliez un petit peu le caractère épais et gras, peut-être, du fromage. Et donc, toute saison, ou même je recycle des morceaux de pain rassis que je fais cuire en même temps que mon pain.
Bravo.
Je vous engage à essayer, c'est très bon.
Oui, ouais, c'est un pro de toutes les stratégies de bricole autour du poêlon de la raclette. On en avait déjà eu une expérience il y a quelques années avec notre ami Dominique Hutin. C'est le tour de Déborah de croquer dans la raclette. On va comprendre pourquoi.
France Inter. On va déguster.
Ça croque, en tout cas sous les yeux, je peux vous assurer que ça croque et c'est diablement réussi.
Et alors, avant de croquer, je vais quand même répondre à pas mal de questions d'auditeurs qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'on peut mettre sur la raclette si on n'a pas envie de manger des pommes de terre, si on n'a pas envie de manger de charcuterie, si on est végétarien ou quoi que ce soit. Donc là, j'aurais un seul livre à conseiller, le livre qui a été fait par nos amis, qu'on avait d'ailleurs reçu en février 2019 pour l'émission sur la Suisse fromagère. Donc Jennifer et Arnaud Favre, aux éditions Helvétique. Le livre s'appelle « Autre raclette, l'art du fromage à raclette en 52 recettes fondantes ». Donc j'ai envie de dire, allez chez votre libraire.
Nous les avions reçus pour
la Suisse fromagère.
Ou pour haute fondue, non, je crois.
Oui, mais ils avaient parlé du livre haute fondue, mais c'était une émission sur la Suisse fromagère. Voilà, ils ont récidivé avec le haute raclette, qui est un petit bijou. Donc, je vous invite à aller regarder ça.
Et nos amis suisses ont une vraie crédibilité en termes de raclette, donc faisons leur confiance.
Exactement. Mais pour la recette du jour, j'ai choisi de vous parler d'un autre ouvrage paru donc là aux éditions First, qui s'appelle Les Croques, fait par Bastien Petit, d'ailleurs, dont j'ai appris c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc, bon anniversaire Bastien et merci pour ces croques.
Joyeux anniversaire Bastien.
L'idée, en fait, c'est de recycler le fromage à raclette parce que si vous êtes comme moi et que vous vous emballez un petit peu parce que vous achetez plein de variétés, il peut en rester après la soirée raclette, donc on peut effectivement la manger tout simplement sur son plateau de fromage le lendemain, mais ça fonctionne aussi très bien en croque-monsieur. Donc dans l'ouvrage, Bastien propose deux recettes avec du fromage à raclette, donc le fousitou. Alors le fousitou, là, ce serait avec du poulet rôti, un reste de poulet rôti, de la béarnaise. Alors moi, j'ai choisi de rester dans le local. Donc j'ai préparé la recette de l'étoile des neiges. Alors étoile des neiges,
elle est bonne, hein.
On a tous la chanson, j'imagine, en tête.
Vous nous la faites, non ?
Non, on va éviter.
On ne demandera pas à Dominique.
Non, surtout pas.
Non.
Donc pour 4 croques, il faut 8 tranches de pain de campagne, 16 tranches de viande des grisons, 400 g de pousses d'épinards, 300 g de fromage à raclette, 4 cuillères à soupe d'huile à l'ail des ours, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du zaatar, du poivre et du sel. Donc en fait, on fait revenir tout simplement les pousses d'épinards dans une poêle. Une fois qu'elles sont tombées, on commence à monter son croque, donc avec tranches de pain, fromage à raclette, viande des grisons, les épinards. On referme et on fait cuire. Alors normalement, ils conseillent de le faire au four. J'allais quand même pas apporter le four sur le plateau.
Est-ce qu'on a le droit de dire que vous êtes quand même déplacé
avec un appareil à croque-monsieur.
Votre presse à croque-monsieur.
Tout à fait. Donc non, mais j'ai fait des choses pour cette émission. J'ai fait le chalumeau pour brûler une omelette norvégienne, la cocotte minute, des choses comme ça. L'appareil à croque, là, je trouve que ça fait le pendant avec l'appareil à raclette. On est bien sur le plateau ce matin.
Une très très bonne odeur dans notre studio.
Donc voilà, et donc un croque, c'est vrai que c'est une très bonne manière, bah oui, de recycler. Donc là, vous avez 50 recettes dans l'ouvrage. Avec des croques variées, pas tous au fromage d'ailleurs, ouais. Même si le fromage prend la part belle bien évidemment.
Je tombe là sur l'Alsacien page 54, Münster, chou blanc, saucisse fumée, dans une photo absolument irrésistible.
Ah, oui.
On peut vraiment parler de food porn, j'aime pas trop ce mot mais...
S'agissant de sandwich et de raclette, moi je confesse, vous en parliez tout à l'heure de manière crue, je me fais des sandwichs à la raclette, ça fonctionne extrêmement bien.
Fondu ou...
Non, vraiment cru, en larmes, les lendemains. Je rajoute une petite larmichette de moutarde, mais vous l'assaisonnez à votre goût au final.
Vous nous rappelez les références de votre livre, Déborah ?
Les croques de Bastien Petit aux éditions First et Autre raclette de Jennifer et Arnaud Favre aux éditions Helvétique.
Aux éditions Helvétique. Et en parlant de Suisse, on a rapporté également, alors on ne veut pas faire offense évidemment, à la raclette IGP de Savoie, mais j'ai découvert une raclette absolument prodigieuse, c'est une vraie claque en termes de goût, c'est, vous nous en dites un mot, Pierre Coulon, la raclette AOP du Valais.
La raclette AOP du Valais, c'est la seule raclette qui a une AOP, hein, donc une protection à l'échelle européenne. Elle est produite autour du Valais, moi je suis aussi fan de cette raclette.
Je voudrais la faire goûter à Rodolphe.
Oui, parce que vous allez voir à la dégustation, les Suisses, justement, délactosent pas ou peu. Et donc du coup, on va avoir des fromages qui vont avoir un peu plus d'aromatique, mais qui doivent s'affiner pendant un peu plus de temps.
C'est entre, je crois, 3 et 6 mois, hein, l'affinage.
Oui, entre 3 et 6 mois d'affinage, et pour la production fermière, il n'y a pas de délactosage en été notamment. Donc des fromages qui ont des fontes qui sont magnifiques, beaucoup plus d'aromatique. On va aussi croiser une petite race de vache que j'aime bien dans le coin, c'est la vache Hérins, petite vache noire.
La vache Hérins, racontez-nous.
C'est la vache, c'est une petite vache noire, un peu agressive, avec laquelle on fait les combats des rennes. Dès que vous en mettez deux face à l'une, elles sont en élection permanente, elles. Donc, qui est souvent présente dans l'appellation, et c'est un très beau fromage. Plus cher, parce que plus vieux, et un peu plus cher à l'achat, malgré tout.
Est-ce que vous vendez de la raclette suisse?
Je vends la raclette suisse, bien évidemment. C'est pas notre entrée de gamme, mais ça permet aussi de découvrir des raclettes avec un peu plus de typicité.
Qu'est-ce que vous pensez de cette raclette, Rodolphe Bonivard?
Alors on est sur une raclette, oui, qui a plus de typicité et on peut voir qu'elle rend un petit peu d'huile, mais c'est pas du tout la même texture que la raclette de Savoie. On est sur deux produits différents. Enfin, ce que j'en pense.
On est sur des produits différents. Elle est aussi un peu plus chère, mais je trouve que c'est. Elle a une profondeur et une longueur en bouche.
Elle est très bonne.
Et une texture de fonte vraiment très chouette. On a beaucoup de questions sur. C'est ça, Déborah, les autres fromages que l'on peut faire fondre dans le poêlon de l'appareil à raclette. Un petit conseil du fromager, Pierre Coulon.
Alors, tout fond, mais malgré tout, un repas raclette, faut de la raclette. Mais c'est vrai qu'on peut très rapidement mettre du morbier. Il y a l'univers des bleus, avec une raclette que j'aime beaucoup, qu'on mange dans le Vercors, ça s'appelle la vercouline, avec du bleu du Vercors, ça se nage. Alors attention, quand on fait fondre du bleu, on prépare pas 250 grammes par personne. Hein. C'est des fontes un peu plus écœurantes, un peu plus salées. Tous les fromages, toutes les pâtes pressées non cuites peuvent être utilisées, au lait de vache,
même
du
côté de l'Italie, il y a des fromages intéressants.
Oui, totalement, hein, même tout ce qui va être provolone font très bien, même une mozza. Après, on sort un peu de l'univers de la raclette, mais on peut tout faire fondre dans les fromages. On évite les fromages un peu trop mous, et puis après, les fromages à pâte cuite vont rendre un peu de gras, mais c'est pas mal bon aussi, hein, cette huile au fond du poêlon.
Bernard de Marseille nous demande si sa femme enceinte peut manger de la raclette au lait cru.
Alors, bien cuite. Moi, je suis pas médecin, mais je sais en tant que fromager que la fonte, elle arrive dès 63 degrés. 63 degrés, on est en dessous des températures de pasteurisation. Donc, par contre, bien grillé en tranches fines, ou alors on remplace par un autre fromage. Et pourquoi pas une pâte pressée cuite? Parce que même si le Beaufort va rendre, ou le Comté, ou l'Abondance vont rendre un petit peu de gras au fond du poêlon, ça se mange super bien fondu.
Très bien. Et puis une question aussi. Alors c'est vrai que la question de la congélation dans l'IGP Savoie, raclette de Savoie, a-t-on droit de congeler des raclettes?
Oui, on a le droit de congeler des raclettes et justement c'est un procédé qui permet de suivre aussi le cycle des vaches parce que c'est beaucoup plus facile de faire du lait à des vaches au mois d'avril et mai pendant la pousse de l'herbe que d'en faire au mois de décembre. Donc c'est ce qui permet aussi de pouvoir lisser la production sur l'année. Quoi.
Et quel effet sur la qualité de la raclette? Est-ce que ça matraque pas un peu le fromage, cette congélation?
Non, aujourd'hui c'est des procédés qui sont faits par des professionnels. On le fait pas chez nous à la ferme. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est réglementé et qui est très bien fait. On n'a pas d'effet indésirable sur ces congélations. Quoi.
Pierre Coulon, un avis sur la congélation des meules de raclette?
Bah, je suis plutôt pour. Hein. On va le croiser aussi sur le Saint-Nectaire. On le croise un peu en fromage de chèvre. Il y a des moments où le lait d'herbe est abondant et où par contre la clientèle elle est pas là. Tant qu'au niveau du goût, moi je retrouve pas, je m'en fiche totalement. Et puis finalement, la congélation, c'est pas le truc le plus compliqué du monde non plus, et c'est pas le truc le plus énergivore du monde. On appelle ça du report à froid, on est à moins 2 degrés, on n'est pas encore totalement congelé.
D'accord.
Ça se retrouve pas au niveau du goût.
Vous allez dégainer, cher Pierre Coulon, du camembert, et on va vous réinviter, c'est un engagement pour une émission camembert, car notre ami Pierre Coulon s'est lancé dans la production de camembert à camembert. Il fait un camembert exemplaire qu'on va goûter tous ensemble depuis quelques semaines seulement.
Oui, c'est les tout premiers. Là, ils ont depuis 3 semaines.
Incroyable, on va le goûter ensemble. Rodolphe Bonivard, je rappelle aux Savoyards et aux amoureux du massif de la Maurienne, Courchevel n'est pas très loin d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, que votre raclette au lait cru est en vente directe dans votre ferme. Merci d'être venu jusqu'à nous.
Merci à vous de nous avoir invité.
À votre visite. La semaine prochaine, une émission tout en douceur autour d'un légume phénomène qu'on cultive en France et qu'on adore en cuisine, c'est la patate douce, avec notre pote du potager Xavier Mathias et la cuisinière Angèle Ferreux Mag. Merci Dominique, merci Déborah, à très bientôt, merci Pierre Coulon pour d'autres aventures laitières, vous reviendrez au micro dont on va déguster, à dimanche prochain, si vous avez encore faim.